peut fermer les lumières de la scène. Merci, c'est fort gentil. Et bien voilà, voilà Mireille, c'est Jean-Philippe, Chantal, donc on se met autour. Et je vais vous donner quelques feuilles, comme ça vous pouvez suivre facilement. Je vous demanderai de faire un devoir pour la fois prochaine, si vous voulez bien. C'est-à-dire de répondre à des questions. Donc, répondre à des questions. Merci. Donc, qui seront posées sur Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Voilà, donc, pourquoi le combat spirituel? Pourquoi est-ce qu'on doit parler aujourd'hui du combat spirituel? Eh bien, vous savez très bien, et c'est le cas dans beaucoup de pays où il y a la guerre, les soldats, comment vont-ils sur le front? Merci. Comment vont-ils sur le front? Est-ce qu'ils se disent, bon, il n'y a pas besoin de prendre ses armes aujourd'hui, ça va comme ça? Comment est-ce qu'ils s'habillent? Qu'est-ce qu'ils mettent sur leur tête, etc.? S'il y a une guerre, si on se bat, on est dans une armée, forcément, on ne doit pas oublier ses armes. On ne doit pas oublier tout ce qui convient à un soldat. Et nous sommes des soldats de Jésus-Christ, et notre ennemi, c'est le diable. Et forcément, il ne viendrait pas à l'idée d'un soldat de ne pas s'équiper, et il arrive que les chrétiens ne s'équipent pas. Ils pensent que c'est plutôt le klepmètre, la vie chrétienne est si simple, si facile, tout va bien, tout est à l'eau de rose. Non, c'est pas vrai. Hein, nous savons très bien dans nos vies qu'il y a des épreuves, des difficultés. Tous les jours, il y a son lot de souffrances, de difficultés, d'obstacles qu'il faut surmonter, etc. Il faut, que ce soit dans les relations, que ce soit par rapport à tout ce que nous vivons, maladies, autres, travail professionnel, etc. Donc nous sommes confrontés à des difficultés. Et spirituellement, nous avons vu que Jésus lui-même, au jardin de Gethsémané, il a dû lutter parce qu'il y avait sa volonté et celle de son Père. Et pour accorder la volonté humaine à la volonté de Dieu, il y a eu tout un combat. Parce qu'il aurait préféré ne pas être dans cette situation. Il savait ce qu'il allait souffrir, il savait que le lendemain allait être terrible, il allait être fouetté, on allait lui cracher au visage, et il a dit à son Père, éloigne de moi cette coupe. Il voyait cette souffrance arriver vers lui, et nous savons que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc nous passerons aussi forcément par des difficultés, peut-être pas les mêmes que Jésus, mais nous sommes appelés à souffrir, à le servir et à souffrir, à vivre pour Dieu, à être rempli de paix, de joie, d'amour, etc., mais aussi avoir des difficultés qui sont l'eau de toute personne, et particulièrement de ceux qui servent Dieu, parce que l'ennemi n'est pas content avec nous. Alors, oui, c'est ça. Pourquoi suis-je tenté? C'est ça la question. Et soumis à toutes sortes de pressions, si je suis chrétien, normalement, je fais la volonté de Dieu, normalement, il ne devrait rien m'arriver, je suis dans le plan de Dieu, ça va alors. Et si je suis dans le plan de Dieu, justement, l'ennemi ne nous aime pas, lui. Et il va tout faire pour nous déstabiliser, bien entendu, et surtout au début de notre vie chrétienne, mais tout au long de notre vie chrétienne. Alors, Dieu veut nous apprendre à faire face à la tentation, à devenir de plus en plus fort pour résister dans le mauvais jour. Hein. Et le faible chrétien que nous sommes, peut-être, est appelé à devenir plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus aguerri. Hein. Il y a un verset dans le psaume 18 qui dit que tu exerces ma main à la bataille, ça veut dire que je peux devenir un meilleur soldat, hein. Un meilleur soldat de Jésus-Christ, un meilleur conquérant, hein? Conquérant dans le sens de conquérir la terre, d'évangéliser, d'être un homme, véritablement un homme de Dieu, une femme de Dieu, une jeune fille de Dieu, un jeune garçon de Dieu. Et bien sûr, au départ, nous avons une vie en dents de scie, hein? Nous avons des défaites, des victoires, et progressivement, Dieu veut nous aider à réussir, à avoir de plus en plus de victoires dans notre expérience quotidienne. Et le Seigneur veut que nous dépendions de sa grâce. Hein. Et bien sûr, si nous dépendons de sa grâce, nous allons voir la victoire venir, une pleine liberté dans l'esprit et une victoire. Pour cela, bien sûr, nous allons voir qu'il y a des étapes et qui dit combat spirituel dit ennemi spirituel. Alors, quels sont nos ennemis spirituels? Si je ne sais pas quels sont mes ennemis spirituels, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Nous avons trois ennemis à distinguer, le diable, le monde et la chair. Ces trois ennemis cherchent à nous détourner de Dieu et de sa vie abondante. Dieu a promis de donner à celui qui le suit une vie abondante. Celui qui demeure en Christ, une nouvelle créature, il donne sa vie en abondance, mais pourtant, nous avons des ennemis. Alors, dans la mesure où nous permettons de gagner du terrain à l'un de ces ennemis dans notre vie, nous nous laissons dépouiller de notre vie riche et glorieuse et abondante avec Dieu. Nous savons qu'il y a un premier ennemi, c'est le diable. Lisons 1 Pierre 5,8, nous l'avons entendu et vu sur l'écran. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable. Ah oui, d'accord, tu peux le lire si tu veux. Voilà, donc nous avons à prendre la victoire, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Si nous nous soumettons à Dieu, si nous mettons notre chef, je veux dire notre tête, notre corps, notre vie sous la main de Dieu, nous nous laissons guider par Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous nous soumettons à Dieu et le diable va finalement fuir de nous parce que nous résistons à ses propositions. Le champ de l'adversaire, le champ de bataille, c'est nos pensées. C'est les pensées de Mireille. C'est là que le diable essaie de t'attaquer, dans tes pensées, pour chacun, c'est pareil. Martin Luther, il a dit, vous ne pouvez pas empêcher que les oiseaux tournent autour de vous, dans le ciel, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Donc quand les pensées que l'ennemi essaie de mettre dans votre tête viennent, on ne peut pas empêcher que ça nous passe par la tête, mais nous pouvons dire non. Cette pensée-là ne vient pas de Dieu, je n'accepte pas. Ça ne vient pas de Dieu. Et si j'épouse ces pensées-là, alors que je vais les trouver comme étant les miennes, et éventuellement elles ne sont pas les miennes. Mais elles sont devenues les miennes si je les ai acceptées. Attention que le diable veut s'immiscer et nous faire croire que c'est nous qui avons pensé certaines choses. Et il vient avec des pensées qui sont subtiles. Ce sont des sophismes. Des sophismes qui visent à nous mentir sur la réalité des choses. Il se sert de la vérité bien souvent pour nous tromper. Donc on pourrait prendre un exemple, c'est par exemple avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas prendre du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal? Ève dit, nous ne pouvons pas toucher, on ne peut pas toucher, on ne peut pas prendre. Il y a des petites nuances dans le texte où on voit que Ève ne dit pas exactement. Et le diable s'insinue et il va mettre le doute. En fait, il va la faire basculer. Et le doute que l'ennemi vient mettre dans notre tête, c'est là où il a de la puissance. Quand on accepte les doutes du diable, c'est là où on va commencer éventuellement à vaciller, bien sûr, si on accepte ses pensées. Et donc, résistez-lui fermement la foi. L'apôtre Paul nous dit que vos pensées soient pures, agréables à Dieu. C'est dans Philippiens 4, 8, si vous voulez le prendre. Je ne l'ai pas ici, mais on va le regarder si vous voulez bien. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez mes pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Donc, faisons attention à nos pensées, tout ce que nous pensons doit être approuvé de Dieu. C'est comme si il pouvait y avoir le sceau de Dieu. Oui, j'approuve ce que tu penses. Et si ce n'est pas la question, si ce n'est pas le point, peut-être que c'est vraiment quelque chose de contraire. Il faut vraiment s'en détourner. Oui. Oui, c'est vrai, ça. Tout à fait. Donc, ça va rappeler de Marie. Alors, deuxième ennemi, c'est le monde. Alors, le monde, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le monde est mauvais? Le monde, ça veut dire beaucoup de choses, le monde. Alors, il y a d'abord le monde. Nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. D'accord? Le monde, il y a, tout n'est pas mauvais dans le monde. Il y a de bonnes choses. Mais c'est une question de mentalité. La mentalité du monde, c'est la mentalité des gens qui ne sont pas avec Dieu. Et c'est une mentalité mondaine. Et la mondanité est contraire à l'esprit du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Ben, il y a trois choses, hein, on le sait bien. Nous en parlerons encore un petit peu plus loin. Le monde, c'est une mentalité. Et je voudrais bien que on lise 1 Jean chapitre 2 verset 15 et jusqu'au verset 17. Qui voudrait lire cela? C'est juste, vous l'avez je pense. 1 Jean 2, 15 à 17. Alors c'est vrai qu'il s'agit du système du monde, de l'esprit de ce siècle, où le prince de ce monde est à l'œuvre. Alors il y a trois choses dans le monde, trois choses qui sont nocives pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos âmes. La première chose, c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Qu'est-ce que c'est la convoitise de la chair? C'est les yeux de l'homme qui regarde les choses de ce monde et qui convoite, on va dire comme ça, hein, qui convoite tout ce qui est joli, hein, d'accord, la convoitise de la chair, ou tout ce qui est de l'argent ou quoi que ce soit, la convoitise des yeux, donc convoitise de la chair, convoitise des yeux, convoitise de la chair, c'est plutôt ce qui plaît à ma chair, à ma propre volonté, à mes propres désirs, à mes propres aspirations. Convoitise des yeux, c'est ce qui vient me troubler, qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça peut être très bien une jolie fille, ça peut être une belle voiture, ça peut être ce que je vois, la richesse extérieure, et que je peux convoiter, que les gens, en tout cas, peuvent convoiter. Pour les femmes, ce ne sera pas peut-être pas une jolie femme, ce sera peut-être un joli homme, ou quoi que ce soit. Peu importe les productions de ce monde, et l'orgueil de la vie, ça c'est l'orgueil de la vie, c'est le pouvoir qu'on peut avoir sur la terre, par exemple. L'orgueil de la vie, c'est la grandeur qu'on peut se faire sur la terre, c'est arriver à un niveau, vraiment, il n'y a rien de mal que d'avoir de l'ambition, mais des fois on peut avoir de l'ambition parce qu'on a une idée surélevé par rapport à qui on est. On a de l'orgueil, en fait. L'orgueil, c'est se voir plus grand qu'on est en réalité. C'est considérer qu'on vaut mieux que les autres, etc. Et tout cela ne vient pas du Père. Hein. Bien sûr, l'orgueil, quand on parle de l'orgueil, on parle comparaison, on parle jalousie, on parle, bon, toutes ces choses-là vont se mettre dedans. Hein. D'accord? Dans le monde, on se compare, on est jaloux, d'accord? Et on fait les choses pour être vu, etc. Donc toutes ces choses-là sont horribles devant Dieu. Ça vient du monde. Et le monde passe, et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, ça c'est absolument la chose qui nous conduit dans l'éternité. Dieu veut que nous fassions sa volonté, et c'est une poursuite, la volonté de l'homme, et elle n'est pas la volonté de Dieu. Bien souvent, on est à côté de la plaque et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, dit le Seigneur dans Ésaïe 55. Alors, la chair, troisième ennemi, ce n'est pas ton corps, mais tous les désirs mauvais que notre vieille nature peut réclamer. La satisfaction de ces désirs conduit au péché et à la mort, physique et spirituelle. Et je voudrais rappeler ceci, nous avons des besoins. Et les besoins ne sont pas mauvais, nous sommes faits comme ça. Nous avons des tas de besoins. Et des fois, le besoin d'être aimé, va nous conduire à pécher. Si on n'a pas ce qu'il nous faut, bien, si on n'est pas aimé comme on devrait être aimé, ben, dans la Bible, on voit qu'une femme, elle a eu 5 maris, parce qu'elle n'était jamais satisfaite, et elle allait d'un homme à un autre homme, parce qu'elle voulait combler le besoin d'affection, le besoin d'être aimé, qui est normal, naturel, et oui, c'est juste d'être aimé, quelque chose de bien, mais si on le satisfait à sa manière, on fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne savent pas attendre ce que Dieu désire pour eux, alors ils sont célibataires, ils voudraient avoir quelqu'un, mais c'est pas grave, aujourd'hui je trouve quelqu'un. Peu importe si c'est le long d'un chemin, d'un bois ou dans la ville. Ah non, j'exagère. Mais peut-être qu'on va se laisser entraîner tôt ou tard dans une relation parce qu'on aspire tellement à ça. Et voilà, on va mettre Dieu sur le côté pour un instant, pour un temps, pour une période. Et on va aller faire sa propre volonté et faire ce qui va nous décevoir assez rapidement. La satisfaction de ses désirs conduit au péché, à la mort physique et spirituelle. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Apocalypse 22, verset 14, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, il y a beaucoup de choses de différentes dans la chair. Oui, comment ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça. Donc, les chiens, c'est tous ceux qui... sont irreligieux, on va dire comme ça, les débauchés qui se laissent entraîner dans le plaisir immédiat. Parce que c'est ça, j'ai envie d'être heureux, je ne le suis pas. Allez, c'est pas grave, je vais me droguer aujourd'hui, ça va aller vite. Hein? Hop, un peu de drogue, un peu d'alcool, 4-5 verres, 10 verres, 15 verres, et puis on se sent mieux. Hein? Je suis plus heureux. Ben, c'est pas du vrai bonheur, c'est du bonheur artificiel qu'on s'est payé. Avec des choses extérieures. Les meurtriers, les gens qui veulent peut-être se venger, hein, on a vu il n'y a pas longtemps un jeune homme de 18 ans qui a assassiné le bourgmestre de Moucron parce que son père s'était suicidé. Le bourgmestre apparemment avait licencié il y a quelques années l'ouvrier qui était son père et il a voulu se venger, il est devenu meurtrier. Vous voyez, c'est même si on peut avoir le pardon de Dieu, mais on arrive vite à des situations catastrophiques. Idolâtre, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument être bénis. Et si ça ne va pas avec Dieu, on essaye avec on va aller chercher toutes sortes de formes de spiritualité orientale et autres pour obtenir ce qu'on a envie. Il y a des gens qui essayent tout. Il y a même des gens qui ont été évangéliques, qui, soi-disant, avec une étiquette, puis sont passés aux témoins de Jéhovah, ils sont partis dans... Il y a des gens qui cherchent au niveau spirituel. Bon, maintenant, quand on a vraiment découvert le véritable, on ne cherche plus ailleurs, on sait que c'est en Christ que nous avons pleinement toutes choses. Hein, nous sommes bénis, plus que bénis, nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, les attaques. Les attaques, il y a un champ de bataille situé dans notre esprit, on l'a dit. C'est dans nos pensées que ça se passe. C'est là où le diable nous attaque, nous flèche. Il nous envoie des flèches dans nos pensées. L'ennemi travaille au niveau de nos pensées en nous trompant par des sophismes, on l'a dit, hein, des pensées visant à nous tromper. Hein. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, qui pourrait le lire ? Quelqu'un là, ça dit 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Deux Corinthiens 10. Donc, ouais, c'est très très bien, Miral, super. Donc, il y a des forteresses, il y a des forteresses, des murailles, des raisonnements, parce que bon, il y a différentes traductions, des raisonnements et des pensées. Hein. Alors, une pensée, si on la soutient par la raison, hein, si une pensée mauvaise est soutenue par notre intellect, elle devient un raisonnement. Et ce raisonnement, s'il est soutenu et consolidé au fur et à mesure de notre vie, il devient une forteresse. Donc la pensée négative peut très bien devenir un raisonnement. Et ce raisonnement-là peut devenir une forteresse. Et c'est beaucoup plus difficile de bousculer, de détruire une forteresse que de détruire une pensée. Si vous avez une pensée mauvaise, détruisez-la tout de suite. Ne laissez pas cette pensée-là venir dans votre façon de voir les choses pour qu'elle devienne un raisonnement. Parce que le raisonnement, c'est déjà tout un combat pour lutter contre un raisonnement. Et le raisonnement peut devenir une forteresse, donc quelque chose qui s'inscrit dans presque une institution de notre propre vie. Hein? Par exemple, je vais aller dire quelque chose de assez simple, on va dire comme ça, la pensée homosexuelle. Eh bien, il peut y avoir une pensée comme ça qui nous arrive. Elle peut devenir un raisonnement logique, dans le sens de dire, ben oui, tout compte fait, David et Jonathan, Jonathan aimait comme son âme David, et il était probablement homosexuel, donc il n'y a pas de problème, ça marche. Et ça devient aussi une forteresse quand on dit, oui, maintenant, les couples homosexuels peuvent se marier. Vous voyez le genre de truc qui peut se passer dans le fort intérieur des gens. Hein? C'est d'abord une pensée, puis ça devient un raisonnement qui peut devenir une forteresse. Et dans notre société, vous avez compris tout de suite qu'il y a des forteresses à abattre. Hein? Mais si le mur est tombé le mur de Berlin est tombé en 1989, il est possible de faire tomber aussi les mentalités. Hein? Il y a des mentalités qui doivent être amenées à l'obéissance du Christ. Hein? Nous amenons toute pensée à l'obéissance du Christ. Qu'est-ce qu'il faisait Paul ? Il enseignait. Il enseignait la parole de Dieu de telle sorte que les gens sachent que la manière dont ils pensent n'est pas celle-là. Hein? Il les enseignait d'après la parole de Dieu. Et donc, petit à petit, je veux bien, c'est gentil, donc petit à petit, les pensées venant du monde doivent s'estomper, doivent être détruites progressivement. Hein? Jérémie, par exemple, il était envoyé pour détruire. Briser, détruire, arracher, etc. Il y avait quatre termes pour reprendre, je ne sais plus le quatrième, et pour planter, bâtir. Mais il y avait quatre termes de destruction, hein, lisez dans Jérémie, chapitre 1, verset 10, et quatre termes de destruction et deux verbes de construction. Hein, on peut le voir, on peut le voir si vous voulez, Jérémie, chapitre 1, verset, c'est très intéressant, comment ? La muraille de Jéricho aussi. Et ouais, ça c'est la muraille de l'ennemi, hein, que nous devons abattre. Alors, donc, je vous ai demandé d'aller dans Jérémie. Hein. Jérémie, voilà, Jérémie chapitre 1, verset 10. Voilà, arracher, démolir, faire disparaître, détruire. Arracher, démolir, faire disparaître, détruire. Et deux verbes de construction, construire, planter. D'accord ? Et quatre verbes de destruction. Donc deux fois plus de destruction que de construction. Pourtant, c'est un constructeur aussi, il a des prophéties positives pour Israël, mais il devait aussi les reprendre. Il devait aussi travailler dans les raisonnements des gens de Jérusalem. Et donc, il devait les reprendre à beaucoup de niveaux. Hein? Pourquoi? Parce que... Ah oui. Regardez, moi je prie faire un terrain vierge pour y construire un nouveau bâtiment. J'ai un terrain vierge. Je fais les fondations, je fais plutôt le trou, le dossier vient, on fait les fondations, on bâtit la maison. Mais imaginez, c'est le même terrain, mais il y a déjà une construction. Il faut tout, qui n'est pas bon, mais il faut tout arracher, tout détruire, avant de pouvoir commencer les fondations réellement. Il y a du boulot, il y a deux fois plus de travail, en fait. Ça coûte au niveau de la démolition. Eh bien, Dieu, il voudrait trouver des terrains vierges en nous, mais bien souvent, ce n'est pas vierge. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas selon la pensée de Dieu. Donc, il doit d'abord détruire et reconstruire. Et quand on dit reconstruction, des fois, on saigne de devoir être détruit dans ses raisonnements. Ça fait mal. Ça fait mal. On souffre. Et puis, c'est la manière dont nous avons cru en des choses qui sont fausses. Et c'est vraiment tout un travail de démolir ça. Démolir des croyances fausses dans nos vies est extrêmement difficile. Et Dieu y arrive, mais avec le concours de notre volonté, bien sûr. Hein, parce que si nous ne voulons pas, Dieu ne pourra pas le faire. Alors, si nous le voulons, nous nous mettons au diapason de sa parole, et progressivement, la parole de Dieu va changer, transformer notre regard, notre manière de voir la vie, de voir les autres, de voir notre comportement, et tout ça va changer pour que nous puissions ressembler un peu plus, jour après jour, à Jésus-Christ. Hein? D'autant plus qu'il peut se dire avec une certaine culpabilité. Si tu quittes la grande église catholique, est-ce que je ne suis pas coupable dans, est-ce que c'est moi qui suis dans le bon, tous les autres sont dans le faux, et tu t'opposes à des pensées comme ça. Ouais. Ah oui. De la manière de penser... Des gens de notre société, de notre famille, etc. Ça.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Il n'y avait plus rien qui était bâti, on l'avait déjà démoli. Merci, merci Jean. Alors, ouais, on pourrait dire que le sophisme est ce qui conduit à une erreur de jugement ou de raisonnement par une mauvaise interprétation d'un acte, d'une parole, d'une situation ou circonstance donnée. La pensée fausse qui n'est pas amené captif à l'obéissance du Christ, devient un raisonnement faux, et voilà qui va devenir une forteresse, hein, c'est ce qu'on a dit. Heureusement, les armes spirituelles, on avait vu dans le passage, on l'a lu, que les armes spirituelles données par Dieu sont puissantes pour renverser les forteresses. Donc, on ne doit pas avoir peur, c'est pas encore la dernière chose si nous avons des forteresses, parce que ces forteresses-là peuvent être abattues, hein, et heureusement. Alors, l'ennemi se sert souvent de la vérité, car c'est alors qu'il est le plus redoutable. S'il se servait seulement de mensonges, on n'y croirait pas. Mais il se sert de la vérité, évidemment, de suffisamment de vérité pour nous conduire à croire à ces mensonges. Par exemple, Matthieu, chapitre 4, verset 6, avec Jésus, il a dit ceci, « Si tu es le Fils de Dieu. » Oui, d'accord. Matthieu, chapitre 4, verset 6. Voilà, donc il se sert de la parole de Dieu, il donnera des ordres. Donc jette-toi en bas si tu es le Fils de Dieu, car il donnera des ordres à ses anges. Psaume 91, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire, suicide-toi, tracasse pas, les anges viendront te recueillir, tu ne te feras pas mal. Quoi. Hein? Donc, première partie, elle est fausse, elle est bâtie sur la deuxième partie, qui dit que finalement, tout ira bien pour toi. Hein? Mais c'est toujours conditionné, hein? les promesses de Dieu, c'est conditionné à l'obéissance à Dieu, et Dieu nous interdit de nous suicider, par exemple, hein? Ou de faire des choses qui n'ont pas de sens à ce point-là. Ces pensées visent à nous égarer de la vérité, c'est pourquoi il nous faut bien connaître la Bible. Donc, la parole de Dieu, nous devrions être des maîtres dans la connaissance de la parole de Dieu. Hein? Les catholiques disent souvent que les protestants connaissent mieux la Bible qu'eux. Hein? C'est bien, mais il faut encore, en tant que protestant évangélique, la lire tous les jours. Hein? Donc, certaines pensées visent à nous culpabiliser alors que nous sommes pardonnés. Hein? Le diable essaye de venir avec des pensées mauvaises pour nous accuser, pour nous rappeler nos fautes, alors que nous avons déjà demandé pardon. Si j'ai demandé pardon, est-ce que je dois encore me sentir coupable? Si quelqu'un vous dit, tu te rappelles ce que tu as fait il y a 20 ans, et tu as demandé pardon déjà depuis longtemps au Seigneur, est-ce que tu dois te sentir encore coupable, Irène, à ton avis? Non, parce que Dieu a plongé dans la mer de l'oubli toutes nos fautes. Donc, on n'a pas besoin. Le diable sait les faiblesses de chacun. S'il y a moyen de le culpabiliser, ce sera une arme. Hein? Soit, bien souvent, nous culpabilisons à tort, ou alors nous accusons les autres à tort. Hein? Et le juste milieu, c'est de ne pas ni accuser les autres, ni s'accuser soi-même. Si j'ai demandé pardon, je ne dois pas m'accuser. D'accord? Je ne dois pas accepter une auto-accusation à n'importe quel moment. Maintenant, accuser les autres, ça ne va pas non plus. Si c'est moi qui suis coupable de quelque chose, certainement. Et savoir être vrai par rapport à ce qui se passe. Alors, certaines pensées visent à nous culpabiliser, c'est juste. D'autres pensées cherchent à interpréter négativement les paroles, faits et gestes de nos frères et sœurs. Par la pensée, l'ennemi, par l'entremise de nos faiblesses, fatigues, difficultés, souffrances et besoins du moment, nous tente à répondre à nos besoins physiques, moraux, spirituels et affectifs, de manière à nous faire tomber dans le péché. Donc, ça, c'est ce que j'appelais les raccourcis. Hein? L'ennemi veut nous faire passer des raccourcis. J'ai besoin d'être aimé. Eh bien, dès que possible, je trouverai une occasion pour être aimé par quelqu'un. Mais ça, c'est la catastrophe assurée. Hein? J'ai besoin d'argent. Ben, j'en ai pas, je vais travailler en noir. Je vais m'en sortir. Quoi? À tout niveau, hein? À tous les niveaux. Donc, oui, par la pensée l'ennemi, par l'entremise de nos faiblesses, fatigues, difficultés, souffrances et besoins du moment, nous tente à répondre à nos besoins physiques, moraux, spirituels et affectifs de manière à nous faire tomber dans le péché. Non. Mais le diable se sert de toutes les possibilités. Si tu es fatigué, il va plus facilement t'attaquer. Les brebis faibles du troupeau, c'est pas celles qui sont en bonne santé et que tout va bien. C'est celles qui ne suivent pas parce que peut-être elles ont mal à une patte et voilà, elles sont un petit peu sur le côté et on n'a pas fait trop attention et paf, elles se font avoir par un loup. Et donc, nous devons veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, parce que quelquefois nous sommes faibles à certains moments, et nous devons veiller, hein, veiller car la chair est faible, dit Jésus, mais quelquefois. Non. Non.
Non. Oui.
Oui. Et des fois, on se fait avoir, mais l'humilité, c'est de reconnaître la faute que nous avons commise. Par exemple, je suis fatigué. Et quelque chose m'énerve. Et je m'emporte dans la colère. Mais ça vient de la fatigue. Si je n'avais pas été fatigué, je n'aurais pas été en colère. Et dans cette colère-là, je dis une chose qu'il ne faut pas, je blesse. Et des relations sont malmenées pendant X temps sur quelque chose qui vient d'une colère, venant d'une souffrance ou d'une fatigue énorme. Et on en arrive à des situations en cascade qui nous créent vraiment des problèmes. Et le diable est derrière tout ça. Hein? Parce qu'il se sert justement de nos faiblesses pour nous faire tomber dans le panneau. Maintenant, je peux toujours demander pardon. Si j'ai commis quelque chose comme ça, je peux demander pardon et être restauré dans ma manière de vivre. Hein? Et c'est ça aussi. Mais il y a toute une mentalité. On peut très bien se conforter dans la pensée qu'on a. Il y a des gens qui, pendant un certain temps, ils vivent une vie chrétienne normale. Et puis, le diable vient les attaquer. Et puis, ils continuent dans cette voie-là. Et on ne revient pas à Dieu, on ne demande pas pardon. Et donc, ça, c'est de l'orgueil, ça. Je ne reviens pas vers Dieu. Parce que ça voudrait dire, alors que je me suis trompé, non, je ne me suis pas trompé, je continue. Et puis alors, voilà, je déraille, mais spirituellement, je suis en plein déraillement, mais c'est pas grave, on va jusqu'au bout. Parce qu'il faudrait quand même pas faire croire aux autres qu'on s'est trompé. Non, non, je ne me suis pas trompé, c'est les autres qui se sont trompés. Et je suis dans le bon. Et alors, la personne, elle va droit dans le mur. C'est une catastrophe. Hein, on voit ça des personnes qui... qui avait une vie de couple normale et puis qui, suite à un adultère, s'écarte de l'Église, s'écarte du plan de Dieu, s'écarte de leur mari, s'écarte de tout. C'est une catastrophe. Et on espère et nous prions pour que ces personnes puissent revenir vers Dieu et trouver le pardon. Hein, c'est sûr. Mais qui met des sophismes pareils dans la tête? Hein, ce gars qui a tué le bourgmestre, il faut quand même le faire. C'est pas du jour au lendemain qu'il a fait ça, mais progressivement, il y a eu des mécanismes dans sa pensée, et puis pour finir, il a vu le jour où il pouvait faire ça, et il l'a fait. C'est grave, hein? Voilà. Alors, les exemples, pour le besoin affectif, l'adultère ou la fornication, pour la recherche de la volonté de Dieu, une direction précipitée, on ne cherche pas Dieu et on se dirige autrement que selon le conseil de Dieu. Pour un besoin financier, travail non déclaré, le désir de s'enrichir. Pour le besoin spirituel de servir Dieu, le désir orgueilleux d'élévation. On peut avoir envie d'avoir une position. Une mauvaise inspiration peut provenir de quelque chose que nous voyons, ou que nous entendons dire, ou que nous lisons, ou par toute autre chose. Ces pensées semblent surgir de nulle part, quelquefois. Hein, et elles s'imposent à nous brusquement. Et donc, il faudrait découvrir quand même, quand une pensée vient de l'ennemi, on devrait la mettre devant Dieu. Vous voyez, je parlais de mélange, là. Quand on commence à mélanger la pensée de l'ennemi dans notre tête, avec nos propres pensées, non, quand même pas. Tu crois que... Et puis hop, on est en train de dévier, une personne ne nous a pas dit bonjour, et voilà, cette personne-là... Voilà, il y a des histoires qui viennent changer ces choses-là. Devons vraiment faire attention. La chair a tendance de se laisser séduire par ses attaques car elle est faible. Notre première réaction quand nous nous laissons amorcer comme le... poisson à l'hameçon et d'y penser. Jusqu'à ce point, nous n'avons pas péché, nous sommes seulement tentés. Alors, quand nous avons une mauvaise pensée, eh bien, nous devons discerner d'où vient cette pensée-là. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu pense comme ça? Est-ce que c'est moi qui pense comme ça? Est-ce que c'est le diable qui pense comme ça? Et quelle pensée me surgit? Quelle origine? Soit je suis influencé par des amis qui m'ont dit ça et tout compte fait, je trouve ça bien. ou bien c'est moi qui pense vraiment comme ça, est-ce que je n'ai pas été influencé, ou alors c'est l'ennemi, ou alors c'est Dieu. Ça peut arriver, quelquefois, tout est possible. Tout est possible. Les amis peuvent être influencés par le monde. Dieu peut les utiliser. Le diable peut les utiliser aussi. Et ça, c'est... Comment ? Oui, oui. Donc, donc le discernement, il n'y a que nous qui pouvons discerner dans cette position-là. Je suis seul avec ça, et puis, qu'est-ce que je fais avec ? Hein ? Alors... jusqu'au moment où je reçois une pensée, je n'ai pas péché. Si j'accepte la pensée et qu'elle vient de l'ennemi, par exemple, je suis dans une pièce, j'étais peintre en bâtiment avec mon père, je me rappelle, et les gens habituellement laissaient toujours de l'argent, je ne sais pas pourquoi. On avait de l'accès dans toutes les pièces, même chambre à coucher, tout le truc. Et ça arrivait très régulièrement, il y avait de l'argent. La cheminée. Et un peu pour voir si je ne serais pas un peu voleur. Certainement. Parce que pourquoi est-ce qu'ils auraient mis de l'argent à proximité comme possibilité de le prendre. Donc, je ne prenais pas cet argent, mais il peut y avoir toutes sortes de pensées. Ça peut être intéressant, l'argent. Il faut savoir dire non. Là, je peux vous assurer, j'ai toujours dit non. Mais il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent se produire aussi. Et donc, savoir dire non. Et je crois que c'est tellement important. Jacques, chapitre 1er, versets 12 à 15. Qui pourrait lire cela? La tentation. Hein. Mais j'ai pas d'argent, ou j'ai pas envie de payer ça quand même, pas dépenser de l'argent, ou je n'ai pas l'argent pour ça. Et voilà. Mais le fait d'avoir cette pensée de posséder quelque chose qui ne m'appartient pas, bon, il n'y a encore rien de mal. Mais à partir du moment où je dis oui à cette pensée, je vais éventuellement me dire, tiens, comment est-ce que je vais faire pour ne pas commouvoir, puis je vais le subtiliser, le mettre dans ma poche, puis faire semblant de rien, et essayer de passer... Comment ? Oui, c'est ça. Je peux résister à cette mauvaise pensée. La pensée d'obtenir quelque chose venant de l'adversaire, je ne pêche pas. Mais si j'accepte cette pensée-là comme étant la mienne, comme étant ce que je veux bien, oui, je veux bien ça. J'arrive déjà à pécher dans ma pensée, et puis je vais arriver à ce que ce désir aboutisse et devienne un vol. Éventuellement, je vais peut-être sortir du magasin avec cet objet-là dans ma poche, indûment, avec une mauvaise conscience, je sais très bien que c'est mal, et c'est quelque chose de mauvais en soi. Et ça produit la mort. La tentation, quand elle aboutit en nous, devient vraiment... une convoitise, et la convoitise c'est mal, la tentation n'est pas mal, la convoitise elle est mal, et quand la convoitise est consommée, elle devient péché. Hein, la convoitise dans le cœur, elle devient finalement un péché et va se réaliser en acte. Probablement qu'elle va. Mais même si nous pensons, au niveau de la convoitise, quelqu'un qui regarde une femme, et qui la convoite dans son cœur, déjà dans son cœur, il y a un péché. Il n'a pas commis, il n'a pas eu le temps de faire un adultère avec elle, ou ça ne s'est pas passé comme il voulait peut-être, mais il y a déjà du péché dans sa vie. La pensée qui traverse notre esprit n'est pas péché si nous lui résistons. Si nous ne nous imposons pas, elle devient convoitise, volonté personnelle de posséder, et là déjà nous péchons. Cette volonté mise en action en pensée personnelle, en parole ou en acte, va produire la mort. Voilà ce que ça fait, ça engendre la mort. Le seul moyen de revenir à Dieu est de se repentir, c'est-à-dire confesser à Dieu, abandonner son péché, croire au pardon de Dieu et réparer. S'il m'est possible de réparer, je dois les rendre. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion, c'est Proverbe 28, 13. Donc si on dissimule ses fautes, on ne réussira pas. Hein, ceux qui viennent vers Dieu avec des mauvaises motivations, pas la motivation de lui être agréable, de le servir, tout ça, mais la motivation d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont des mauvaises motivations. Et ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Il faut pas dissimuler quoi que ce soit. Hein, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Alors le combat et la victoire. Oui. Oui, donc on va arrêter ici. On va arrêter ici. Et je vais vous laisser une petite vidéo. Je trouve qu'elle vaut vraiment la peine. On va la mettre si tu veux bien. C'est une belle vidéo de Reinhard Bonnke sur le pouvoir du sang de Jésus sur nos vies. Hein. Le sang de Jésus nous purifie, mais aussi nous protège. Vous allez voir ça. Nous sommes vraiment protégés.